France Inter. .fr.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La censure du nu dans le cinéma hollywoodien.
Vous avez l'air de savoir beaucoup de choses sur moi.
Vous en savez aussi pas mal sur moi.
Rien à part ce qui concerne mon boulot de flic.
Vous savez que je ne porte aucun sous-vêtement.
Hollywood, Paris. À Paris, plusieurs établissements culturels sont présentement très portés sur le nu. Le Grand Palais avec Helmut Newton, Orsay avec Degas et même l'Institut du Monde Arabe qui ose courageusement un programme « Le corps découvert ». Un projet destiné à un public sélectionné, c'est une chose, mais comment se comporter quand on s'adresse à tout et à tous? Première comparaison avec aujourd'hui, Internet suscite beaucoup d'inquiétudes chez les parents. Eh bien, c'était la même chose pour le cinéma aux États-Unis dans les années 1930. Les Américains, à l'époque, pouvaient s'y rendre jusqu'à 3 fois par semaine et ils entendaient pouvoir le faire en famille. Second rapprochement, dans la France d'aujourd'hui, ceux qui sont, par exemple, de culture musulmane, mais aussi bien ceux qui sont de culture chinoise, ne vont pas avoir la même réaction devant le nu que les membres de la classe dite créative. Eh bien, le cinéma américain se trouvait au beau milieu d'un télescopage, lui aussi très complexe, entre communautés. D'un côté et de l'autre de l'Atlantique, la question de la justification et des modalités de la censure, elle est aussi actuelle que perpétuelle. L'invité de la marche de l'histoire, c'est Jean-Baptiste Torret. Bonjour.
Bonjour Jean-Lebrun.
Jean-Baptiste Torret, qu'on entend ici à France Inter, chez Philippe Collin et Laurent Mauduit, à France Culture, chez François Angelier, qui, habitué de la radio, publie aussi beaucoup de livres sur le cinéma américain, notamment le cinéma américain des années 1970. Ça ne va pas être facile de suggérer le nu à la radio, aussi bien que les cinéastes américains qui devaient l'insinuer sans pouvoir le représenter à cause des codes. Mais avant de parler de la codification, est-ce qu'on peut dire un mot de la première époque, je sais pas, celle du cinéma muet, où souvent le nu était représenté de manière badine?
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelait les petits nudies, des petites bandes où on voyait des gens s'ébattre, où on voit effectivement des femmes nues et poilues. Hein. La question du poil va devenir un sujet important. Et c'est le moment un peu à la fois insouciant, innocent de l'âge d'or, où personne ne sait ce qu'est au fond le cinéma, tout simplement. Donc tout est permis. Et surtout que c'est aux États-Unis, à Hollywood, ça n'a pas du tout cette respectabilité que ça a en France. À l'époque, autour de l'assassinat du duc de Guise, là-bas, ça reste encore un art forain où vont en gros les pauvres, les workers, les femmes, les hommes, les noirs, tout âge confondu. Et là, on est plutôt au tout début du siècle. Hein.
Mais les productions ne sont pas uniquement centrées à Hollywood. Ce n'est pas le cas, par exemple, de toutes les productions de bandes dessinées, de dessins animés. Voici Betty Boop. Alors, Betty Boop, elle a commencé sous une autre forme que féminine. Elle est là sous l'orage, avec des camarades, en tenue de survie. Le radeau est en perdition. C'est une de ses premières apparitions sous forme de femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King!
I can't dive, I can't swim, I don't know how to do anything, oh mama. What can we do?
Tenue de survie, ça veut dire jupe très courte, et comme il y a du vent, puisque c'est l'orage, je l'ai dit, on peut découvrir une jartelle. Bon, tout ça n'a pas beaucoup de conséquences. Ce qui inquiète davantage, c'est le récit qu'on peut faire au cinéma, Jean-Baptiste Torret, de mœurs inavouables qui peuvent mener, par exemple, les femmes au succès.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est absolument passionnant, c'est qu'au tout début, on voit effectivement par moments des femmes nues dans des tenues relativement suggestives, mais il n'y a pas encore de législation. Tout semble à peu près permis. Il y a, en 1908, il y a plusieurs moments, hein, mais en 1908, il y a un événement qui va être important. C'est le moment où le maire de New York, sous la pression de lobbies aussi bien catholiques, puritains, parce que l'Amérique est quand même une terre puritaine et l'action de la censure est un sujet sensible, ce maire de New York va décider d'interdire ce qu'on appelle les Nickelodeons. Hein, ce sont les fameux cinémas à un nickel qui coûtent rien, où tout le monde se rend. Et le problème, c'est que les lobbies, les puritains, considèrent que finalement, ce sont des lieux quasi des pousses au crime, hein, où chacun y va, et donc la famille doit être protégée de ça. Et Hollywood, comme souvent d'ailleurs, plutôt que de subir les foudres de lobbies, de comités, parce qu'il n'y a pas de censure fédérale aux États-Unis, hein, c'est des censures par État, hein, en fonction d'ailleurs des différents, tropismes des États, finalement, l'industrie hollywoodienne va se dire, oh là là, il va y avoir un problème, ils sont assez prophètes, on pourrait dire, qui va nous occuper jusqu'au bout, qui est cette question du rapport au lobby, à l'interdiction. Donc, coupons l'herbe sous le pied des lobbies et instituons nous-mêmes une sorte de catalogue de bonne conduite.
Tout de même, il y avait un espoir d'une solution fédérale. C'est embêtant si le maire de New York a une position, si l'État du Kansas, lui, ne veut pas de femmes qui fument. Alors, on peut aller porter le débat devant la Cour suprême. C'est ce qui s'est fait au début.
Absolument.
Jusqu'à ce que la Cour suprême statue en 1915.
Alors 1915, c'est une date très importante puisque c'est le moment, on pourrait dire en gros, où l'Amérique, où la justice va débouter le cinéma hors, on pourrait dire, du terrain constitutionnel. Jusque-là, les gens de cinéma avaient l'espoir, tout simplement, qu'on puisse mettre les films sous l'égide de la Constitution, et particulièrement du premier amendement, garantissant la liberté d'expression. À partir de là, tout est possible. Mais en 1915, suite au film de Griffith, hein, qui va, avec son apologie, Naissance d'une nation, hein, du Ku Klux Klan, film qui va poser beaucoup de problèmes, énorme film, évidemment, la Cour suprême déboute Hollywood en disant non, le cinéma n'est pas... un art comme les autres, hein. C'est tout simplement une activité mercantile qui cherche le profit, donc le premier amendement ne permettra pas de protéger ces œuvres-là.
Alors c'est pour ça que la profession s'organise en 1922, la Fédération des producteurs va embaucher un presbytérien qui s'appelle Ice pour... essayer de trouver des solutions, vous avez employé le mot, d'autorégulation.
Voilà, c'est ça. Comme toujours, on a peur de se faire interdire ou couper. Donc, voilà, prenons tout simplement les devants. Et donc, Hayes, hein, ce fameux presbytérien qui donnera son nom à un code très célèbre, le fameux code Hayes, va établir des listes. Alors, dans les listes, on pourrait dire qu'il y a deux catégories. Il y a ce qu'ils appellent les listes des don't, ne faites pas, et la liste des be careful, soyez prudent avec ça.
Donc, sujet sensible.
Voilà, ne faites pas. Alors, évidemment, l'obscénité, montrer un accouchement, montrer des organes génitaux, si on reste sur le terrain, on pourrait dire sexuel de la nudité, mais soyez prudent. Alors c'est un petit peu plus léger, avec par exemple l'apologie des mœurs un peu libertin. Soyez prudent avec la façon dont on va montrer les armes, dont on va montrer la violence. Et au début, bon an mal an, tout ça fonctionne. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà, il y a que le code Hayes a choisi d'établir une liste. Et les studios, sachant qu'ils ont plutôt intérêt à faire allégeance à ça, décident en gros de se conformer, tant bien que mal, hein, à ces séries de non pas d'interdits, mais de recommandations.
Alors avant que le code ne se cristallise, il y a une période de relative effervescence qui correspond aussi à la crise économique. Les studios se disent on va faire dans le sexe et dans la violence pour résoudre nos difficultés, surtout à partir de 1932. Alors vous avez voulu qu'on entende un Tarzan.
Tarzan, vos yeux sont de quelle couleur? Oui, je sais. Couleur de la forêt. Ils sont gris verts. Habillés, de quoi auriez-vous l'air? Bien, je crois. Et vous auriez du succès à Londres. Vous aimeriez cela, sans doute.
Aimer?
Oh, mais oui. Les femmes sont si folles. Elles vous dépraveraient.
Aimer?
Cessez de me regarder de cette manière-là. C'est beaucoup trop tentant. Raconter tout cela à un homme qui ne comprend rien, c'est très excitant. Rien, bébé.
Un homme qui comprend tout du cinéma américain comme vous, Jean-Baptiste Torré, il sait repérer un film, rien qu'au son, pré-code d'un film d'après le code formalisé tel qu'il va l'être en 1934.
C'est-à-dire que Kharzan, pour moi, est un très très bon exemple, extrêmement pédagogique, de la façon dont le code va changer en partie le visage d'Hollywood. Là, l'extrait qu'on vient d'entendre, donc, c'est un Tarzan 1934, Jack Conway. On a Maureen O'Sullivan, on est Johnny Westmuller, c'est le moment où Tarzan n'a pas encore subi le code. Il est donc très très libre, et Maureen O'Sullivan, dans le film, a une tenue, mais presque pas de tenue, presque rien, hein. C'est quasiment en tenue d'Ève. D'ailleurs, une célèbre séquence quasi de nu où elle joue les naïades sous l'eau avec Johnny Westmuller sera plus tard supprimée du film. Là, on est avant le code. Donc, on est presque au maximum de la nudité, c'est même encore aujourd'hui. C'est assez fascinant de se dire qu'en 34, c'est possible. 2 ans plus tard, le code est passé. Il a passé la même année que la sortie du premier Tarzan. Et là, c'est pas Tarzan, c'est Tarzan et sa compagne. La compagne, c'est toujours la même. C'est toujours Maureen O'Sullivan. Le problème, c'est qu'elle est habillée comme en plein hiver. C'est-à-dire que ça se passe toujours dans la jungle, mais elle a plus du tout cette espèce de peau de daim extrêmement suggestive qui laissait à peu près tout voir. Cette fois, on a l'impression qu'elle part sur la Lune ou en Sibérie à moins 50 degrés. Et donc, elle est intégralement recouverte, revêtue. Et je pense que juste par l'exemple de Jane, donc la compagne de Tarzan, à 2 ans d'écart, on voit qu'il s'est passé quelque chose visiblement quand même, et ce quelque chose, c'est évidemment l'instauration du fameux code.
Alors chaque film doit passer en commission. La commission est présidée par Monsieur Brin, qui est le pendant de Monsieur Hayes, mais qui est l'exécutant et qui est très catholique.
C'est le bras armé,
très catholique. Et donc un sceau de conformité au code de production est apposé sur les films. Il faut dire que le système de studio tel qu'il règne dans les années 1930, où le réalisateur n'a pas le dernier mot, facilite cette bureaucratie.
Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il faut que le film sorte et qu'il n'y ait pas, à un moment donné, le réalisateur qui puisse faire quelque chose qui contrevient à l'ensemble de la marche collective, on pourrait dire. Ce qu'on appelle le cinéma pré-code, c'est très très précis. Les Américains connaissent bien ça, nous, on a un petit peu moins. C'est là une période qui va de 29 à 34. Autrement dit, tout début du parlant à 34. Pourquoi le parlant, c'est important? Tout simplement parce qu'il est évident que d'un seul coup, lorsque les recommandations ont été mises en place, personne n'avait prévu qu'un jour les personnages pourraient parler. Et dire des choses obscènes, sensuelles, érotiques par la voix. C'est les intertitres avant. Et donc, évidemment, les gens sont totalement, on pourrait dire, les censeurs sont totalement débordés et vont presque le parlant. Et avec d'autres scandales qui ont lieu dans les années 20, il faudrait parler de Roscoe Arbuckle.
Oui, mais là, on l'a déjà passé aux années 34.
Voilà, font que le code va être mis en place et d'un seul coup mettre un coup d'arrêt à cette période dont vous parliez de liberté, mais sur tous les plans, pas uniquement d'un point de vue de la sexualité et de la représentation du corps.
Mais avec rien que des scènes muettes, une fois le code appliqué, on peut dire beaucoup de choses. Je sais pas, la caméra guette un gratte-ciel. Le gratte-ciel
oui.
S'élève.
Alors, l'art de la métaphore. Alors voilà, le panoramique vertical, on remonte vers un gratte-ciel, symbole de l'érection. Une bouteille de champagne qu'on ouvre, symbole de l'éjaculation. C'est-à-dire que les cinéastes hollywoodiens vont très très vite, évidemment, comme toujours, s'adapter, un peu comme les hackers d'aujourd'hui. Dès qu'on a une protection informatique, tout de suite on sait la détourner. Et non seulement les cinéastes hollywoodiens vont savoir comment contourner le code, ils vont absolument parfaitement. Et surtout, ça va offrir presque, on pourrait dire, agrandir le répertoire des motifs. Et de ce point de vue-là, ça a presque du bon. Et beaucoup de cinéastes, notamment comme Billy Wilder, disaient, c'était formidable l'époque du code. C'était le moment où on devait faire un clin d'œil au spectateur par-dessus l'épaule de Joseph Brin et de William Hayes.
C'est-à-dire que quand Rita Hayworth ne peut pas se déshabiller,
Elle enlève de façon extrêmement langoureuse son très long gant et tout le monde comprend de quoi il s'agit, c'est-à-dire que le dénudement du bras vaut comme le dénudement du corps. Et d'ailleurs, ça me fait je pense juste à quelque chose d'important du point de vue de la critique et des gens qui aiment le cinéma, c'est que la mise en place du code et donc le besoin, la nécessité de trouver des solutions de rechange, des ellipses, l'ombre, dans l'utilisation du hors-champ, etc., font que ça va produire presque ce qu'on appellera la fétichisation d'Hollywood. Une des raisons pour lesquelles on aime tant Hollywood, c'est qu'on aime des fétiches. Un bras, le pied de Pandora, voilà, on aime la coiffure platine de Jean Harlow.
Donc et tout ça va avec le système stars inaccessibles.
Absolument, mais la fétichisation, en fait, c'est un produit du code. Comme on ne pouvait plus montrer tout le corps, on s'est mis à découper le corps en petits morceaux et on a porté l'attention et donc l'énergie, la libido du spectateur sur des bouts de corps, ce qui est le principe même de la fétichisation, bien avant Buñuel.
Ouverture d'une première brèche dans les années 40, dans ce système dominé par les grandes sociétés, grâce aux producteurs indépendants, et notamment à Howard Hughes, qui embauche une nouvelle star, Jane Russell. Nous sommes en 1941. Le film s'appelle Le Banni, The Outlaw. Il ne sortira finalement qu'en 1943, alors avec une bande-annonce extrêmement déterminée. Et puis cette publicité, il y a deux raisons pour l'accès de Jane Russell au statut de star, sans doute comme il y a deux seins dans une poitrine.
Yes, the outlaw is coming. The outlaw, as bold as life, as fast as time. The outlaw is the most exciting entertainment you have ever seen.
Alors, l'histoire raconte les aventures de Billy the Kid qui convoite un cheval, qui est peut-être encore plus important que la femme. Enfin, la femme, c'est Jane Russell. Dans la scène que voici, il n'est pas dans de très beaux draps, notre ami Billy the Kid. Il est blessé, mais Jane Russell est prête à le disputer à toute autre femme et à le soigner à sa façon.
I tried those hot stones with Julio, but it was just the same.
J'ai chauffé ces pierres pour Julio. Il était dans le même état que lui. Il a tremblé comme une feuille jusqu'à sa mort.
Sors d'ici et ferme la porte.
Pourquoi ?
Je t'ai dit de sortir.
Elle commence à se déshabiller.
Tu deviens folle ?
Maintenant, sors.
Elle s'adresse à Billy.
Tu ne vas pas mourir. Je vais te réchauffer.
Oui, c'est pas la première fois que se glisser dans le lit médicalement est un contournement érotique de ce que vous décriviez tout à l'heure. Alors, évidemment, quand il y a des scènes de ce genre, j'imagine qu'on passe devant une commission.
Absolument.
Et c'est la commission toujours présidée. On est en 41 par notre ami Brine. Et d'ailleurs, la reconstitution de la scène a été faite dans le film que Scorsese a consacré au producteur indépendant et réalisateur qu'était Howard Hawks. Nous sommes en 41.
Monsieur Hughes, messieurs de la commission, j'ai examiné la photographie du film de Monsieur Hughes intitulé Le Banni et je déclare formellement que je n'avais jamais rien vu d'aussi inacceptable, d'aussi choquant que les plans de la poitrine du personnage dénommé Rio. Pendant presque la moitié du film, la poitrine de cette dame, qui est une nature généreuse et proéminente, se trouve scandaleusement dénudée. C'est la raison pour laquelle j'en conclus que ce film ne peut être d'intérêt que pour un public lascif et me vois obligé de lui refuser l'approbation de l'association pour son exploitation.
Merci, Monsieur Brin. Monsieur Hughes.
Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le débat tourne autour de la poitrine de Mademoiselle Russell. Monsieur Brin estime qu'elle est trop proéminente, c'est ça. Je compte dissiper ce malentendu. Jean Arlo. Anne Sheridan. Irène Dunne. Claudette Colbert, Rita Hayworth, Betty Grable et la ravissante Mademoiselle Jane Russell. Toutes ces photographies sont tirées de films qui ont tous reçu l'approbation de M. Brin et de la commission. Vous avez vraisemblablement remarqué que chacune montre une poitrine proéminente. Permettez-moi de vous présenter le Dr. Ludlow Bronson de l'Université de Columbia. Le Dr. Bronson est un mathématicien de grande réputation. Et il va nous démontrer, de façon évidente, que la poitrine de Mademoiselle Russell n'est pas plus proéminente que celle de ces jeunes dames.
Alors il se bat, Howard Hughes, parce que c'est son seul motif de oui, succès c'est... possible pour le film. Et il faudrait faire peut-être 37 ou 40 coupes.
Oui, mais en même temps, on voit très très bien dans ce dialogue-là, que, mis en scène par Scorsese, le dilemme. En fait, de la censure et de ce système-là. C'est qu'évidemment, le cinéma, comme disait Malraux, est aussi une industrie. Donc, il doit attirer le chaland. Chaland qui est de plus en plus ouvert sur les mœurs, qui va voir arriver la télévision, qui va voir arriver voilà, d'autres formes d'expression de plus en plus, on pourrait dire, libertaires bon, et permissives. Hein, ce que le censeur appelle le lascif. Bon. Donc, il voit ça. Il sait qu'il va pouvoir se faire de l'argent, évidemment, en augmentant le potentiomètre, on pourrait dire, du sexe, de la violence, etc. En même temps, il a un code. Et on pourrait dire que toute l'évolution du code des États-Unis, c'est lorsque l'écart, on pourrait dire, entre l'évolution de la société, la demande, là on est au début des années 40, et le code, lorsque cet écart est trop grand, au fond, le code est obligé de se réajuster, de muter, voire de disparaître. Et là, on sent qu'on est au début de la fin, en fait, bizarrement.
Alors le film va sortir en 43, puis de nouveau en 1946, être interdit ici et là, mais rapporter beaucoup d'argent. 1948, un arrêt de la Cour suprême, très important, la Cour suprême, pour notre affaire. Cet arrêt de la Cour suprême décartélise, c'est-à-dire que les sociétés de production d'Hollywood ne peuvent plus assurer la distribution. Des sociétés nouvelles de distribution se mettent en place qui font venir des films étrangers. Et par exemple, les films néo-réalistes italiens qui surprennent, évidemment.
Voilà, mais alors ça, c'est toute l'évolution, pourrait dire, du cinéma américain qui doit subir de temps en temps des assauts étrangers. Et en l'occurrence, là, suite à cet arrêt de la Cour suprême, le cinéma étranger, et principalement français et italien, débarque sur le territoire américain.
Dans le cinéma français, l'amende... Lady Chatterley de Marc Allégret, et qui n'a rien à voir avec le dernier Avatar de Jane Campion, beaucoup plus habillée, mais l'État de New York voulait censurer l'amant de Lady Chatterley. La Cour suprême, encore un arrêt, casse la censure. Il n'y a plus de possibilité de censure locale. Nous sommes maintenant dans les années 60. On peut voir parmi les films étrangers, celui-ci, c'est Viva Maria. Jeanne Moreau et Brigitte Bardot, dans un club d'une république imaginaire d'Amérique centrale, à mesure qu'elles avancent dans la description idyllique de Paris, elles arrachent leurs vêtements.
On a chanté Genève et ses montagnes, on a chanté Vérone et ses amours, on a chanté les guitares d'Espagne. Oui, mais Paris m'emportera toujours. Minois, fripons, sous gambette légère, Suzon, penchant, Lisette, Zounini, femme du monde ou rose de barrière. Et tout cela, je...
Continue, Bardi.
Ah bon?
Que vous veniez de Norvège ou de Chine, du Transvaal ou du Monténégro, que vous veniez d'Égypte ou d'Argentine, vous serez chez vous sur le Trocadéro.
Alors là, le public est stupéfait, il était habitué à des stars inaccessibles que vous décriviez tout à l'heure, Jean-Baptiste Torret, voilà Moreau et Bardot, quasi nus à la fin de cette séquence devant lui.
Bah là, on est au début des années 60 et on pourrait dire que on arrive au terme d'un long mouvement de libéralisation ou de permissivité. Évidemment, chacun choisira le vocable qui lui sied. Hein. Entamé depuis le début des années 50, il faut évidemment rappeler Elizabeth Taylor, l'importance du théâtre, qui a peur de Virginia Woolf, Baby Doll d'Elia Kazan, Lolita de Stanley Kubrick, sont des films qui ont à chaque fois, on pourrait dire, enfoncé un coin dans le code et faisant tomber peu à peu un à un ces différents interdits. Et là, au début des années 60, il y a surtout l'émergence, le fameux écart dont je vous parlais tout à l'heure, cette espèce d'écart entre l'évolution de la société et ce que montre le cinéma est au maximum. L'apparition d'une nouvelle génération, là en gros la génération du baby-boom, évidemment la guerre du Vietnam pointe son nez, l'arrivée de la télévision qui fait une concurrence monumentale, évidemment au cinéma qui voit ses entrées s'effondrer, la révolte pour les droits civiques. On voit bien que dans les années 60, Jack Kerouac, la bi-génération, bientôt la contre-culture. En gros, ce vieux système hollywoodien qui fait qu'on ne peut même plus montrer... Il y avait des contrôleurs de buste à l'époque, des gens qui venaient vérifier, qui mesuraient de la naissance du sein au cou si la distance en centimètres était acceptable. On voit bien qu'au début des années 60, alors que JFK vient d'avoir son crâne qui a explosé sur Daily Plaza à Dallas, tout ça est évidemment ridicule. Et donc le code, peu à peu... va subir tellement de coups de boutoir qu'à la fin, ce n'est plus qu'un squelette. Il y a quasiment plus rien.
Au nom du besoin de clarté, d'une génération entière.
De transparence. Et puis, une dernière chose, c'est qu'Hollywood n'est plus du tout ce lieu. On n'a plus envie d'un Hollywood qui vous fasse rêver. On a envie d'un Hollywood qui dise le réel, ce qui change tout du point de vue des spectateurs.
Vous parliez de l'importance des adaptations théâtrales. À Broadway, un certain nombre de productions passent maintenant au cinéma et on va les considérer comme des productions pour adultes, qui a peur de Virginia Woolf. C'est une des raisons qui introduit la notion de classification par âge. La Ligue pour la décence devient un lobby parmi d'autres. Le code, eh bien, il s'effrite sur lui-même. Et on imagine, en 66-68, un nouveau système.
Absolument. En 68, c'est donc la fin du fameux code ACE, qui est remplacé par ce qu'on appelle, par un système encore en vigueur aujourd'hui, qui est un système de classification. Cette fois, on dit, voilà, on classe les films en fonction de ce qu'on considère être leur degré de violence ou de nudité. Alors, le PG, parental guidance, voilà, c'est familial. Le PG-13... La famille peut y aller, ou des enfants de moins de 13 ans, mais accompagnés. Et voilà, on va décliner comme ça une série.
Et les moins de 17 ans ?
À moins de 17 ans, c'est-à-dire qu'on peut venir avec un enfant de moins de 17 ans, mais il faut que l'enfant soit accompagné. Et le X qui apparaît en 68, qui n'est pas encore celui de l'industrie du porno, mais de la classification, l'a dit interdiction formelle aux mineurs. Et il y a notamment un film qui va être célèbre pour ça, c'est Macadam Cowboy de John Schlesinger, Dustin Hoffman, John Voight, qui va subir le saut infamant du X.
On a choisi un autre exemple, Gorge Profonde, 1972, on va dire que c'est du Quality X.
Mademoiselle Lovelay, je suis formelle, vous n'en avez pas.
Docteur, je suis une femme, il est normal que j'en ai pas.
Mais non, je ne faisais pas allusion au pénis, vous n'avez pas de clitoris, pas l'ombre d'un clitoris. Ouvrez la bouche mieux que ça, dites c'est ça, ça y est, je le vois, votre charmant appendice, il est là.
Quoi?
Votre clitoris est là, tout au fond de votre gorge. Auriez-vous déjà essayé d'introduire un pénis tout au fond de votre gorge?
Non, à chaque fois ça me fait étouffer.
Ça doit être parce que vous manquez d'entraînement.
Alors admettons que ce soit du Quality X, mais enfin, comme pour ce genre de film, on a besoin d'un faible budget et que les perspectives de profit sont importantes, ça devient très vite radicalement du X.
Oui, c'est-à-dire que là, pourquoi Gorge Profonde est important? D'abord parce que c'est en 72, on est en pleine période de libéralisation. On pourrait presque dire que le pré-code, les promesses du pré-code se réalisent à ce moment-là dans les années 70, que tout est permis en termes de violence, en termes de sexe. Le porno arrive, distribué dans les salles. Et à l'époque, il faut quand même rappeler que le tout Hollywood et le tout politique très chic Washington défilent à Times Square pour aller voir Gorge Profonde, ce film de Damiano, qu'on l'a entendu d'ailleurs, est plutôt innocent, assez drôle. D'ailleurs, le porno arrive à être à l'époque à sortir en salle tout simplement parce qu'on le traite de façon ludique, ce qui serait une des caractéristiques du porno américain. Et d'ailleurs, rappelez-vous quand même que Gorge Profonde, c'est suite à ce film-là que le fameux indicateur de Woodward et Bernstein dans l'affaire du Watergate prendra son surnom. Il s'appellera Gorge Profonde en référence à ça. Autrement dit, ça établit un lien très intéressant entre on peut tout montrer maintenant à l'écran, donc on peut tout dire aussi d'une certaine façon en politique. Et là, on dirait que les années 70, c'est le moment de la libéralisation absolue, mais il ne faut jamais oublier que le code ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'il est latent, il est souterrain, on croit qu'il disparaît, mais il peut toujours ressurgir, ce qui sera notamment le cas dans les années 80, où il y aura une sorte de piqûre de rappel puritaine après l'élection de Reagan, extrêmement forte.
Oui, enfin, le code ne meurt jamais, parce qu'il y a des questions qui sont perpétuelles, et notamment les questions que pose la violence des films. Une fois qu'on a cru la question de la censure dépassée, elle revient.
Mais écoutez, moi je ne suis pas très vieux, mais j'ai l'impression que d'avoir entendu ce sujet, pour moi c'est la tarte à la crème, l'éternel combat entre d'un côté des gens qui considèrent qu'un film est trop violent, est éventuellement obscène, et puis ceux qui considèrent qu'au contraire, voilà, il y a autant de films que de réceptions. Tout le problème de la question de la censure, de la classification, du code, enfin peu importe, est lié, se fonde autour d'un jeu, mais au sens mécanique du terme, entre d'un côté un jugement des contenus, et de l'autre, une sorte l'hypothèse de sa réception. Autrement dit, souvenez-vous à l'époque de Scream, voilà, c'est parce que des gens ont vu Scream qu'ils ont tué. C'est parce que des gens ont vu Tueur né d'Oliver Stone qu'ils sont allés aussi tuer. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples, comme si le cinéma, et ça c'est une des vieilles rengaines de la censure, comme si le cinéma avait une dimension incitative et qu'il fallait maintenir les spectateurs dans un état quasi enfantin. C'est toujours pareil, ne leur apprend pas à pêcher, donne-leur des poissons, ne leur apprend pas à pêcher.
Les censeurs, quand même, avaient raison de dire que, plus que le contenu, le plus important, c'était, vous l'avez démontré, sans le vouloir, Jean-Baptiste Torret, la saveur d'un film. L'émission était réalisée par Jacques Sigal, Camille Poux, Jeanne Guillet, Frédéric Martin, Franck Olivard dans l'équipe de la Marche de l'Histoire, renforcée à la technique aujourd'hui par Sophie Moreno et Patrick Henry.